7h30 sur France Culture. Voici le journal de l'écho signé Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, dans le décryptage écho, on parle d'un concept qui s'applique de plus en plus à la finance traditionnelle, un concept qui vient du monde numérique, la tokenisation des actifs financiers. C'est un procédé popularisé par les crypto-monnaies, procédé qui permet de sécuriser des actifs réels en les transformant en actifs numériques. Il est porté notamment par le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock. Bonjour Adrien Toffolet.
Bonjour, bonjour à tous.
C'est vous qui signez ce matin ce décryptage écho. Alors cette tokenisation des actifs financiers, c'est un bouleversement déjà en marche.
Oui, alors il faut déjà expliquer le concept. La tokenisation, c'est le fait de transformer des actifs du monde réel, de l'immobilier, une œuvre d'art, une dette, une créance, etc., de les transformer en actifs numériques sous la forme de tokens, de jetons, dans une blockchain, un grand registre sécurisé de transactions. Après des années de rejet, cette technologie intéresse de plus en plus le monde de la finance traditionnelle. Larry Fink, le patron du géant BlackRock, a même été jusqu'à affirmer en janvier dernier la tokenisation et l'avenir de la finance. La semaine dernière, l'entreprise a donc annoncé le lancement d'un fonds d'investissement numérique baptisé BUIDL, avec un investissement sur des produits financiers classiques, des bons du trésor américain. En clair, cela signifie que les détenteurs des jetons BUIDL sont propriétaires de ces actifs qu'ils peuvent stocker et vendre sur la blockchain.
À la clé, Adrien, les avantages de cette technologie de la blockchain qui permet de garder la trace des transactions.
Oui, sécurité et transparence d'abord, là où le système financier traditionnel fonctionne parfois avec beaucoup d'opacité sur les transactions et la constitution de certains produits financiers, comme le souligne Grégory Raymond, journaliste spécialisé aux médias The Big World.
On se rappelle par exemple des subprimes, il y a quelques années, en fait, on mettait un peu tout et n'importe quoi dans ces produits-là et en fait les gens qui achetaient ces subprimes ne savaient pas exactement ce qu'ils achetaient. Sur la blockchain, on met tout en public, on publie tout et chacun peut vérifier ce qu'il y a en temps réel dans tous les produits.
L'autre avantage est économique, avec la quasi-suppression des intermédiaires traditionnels comme les courtiers, donc des coûts moins importants. Avec un bémol toutefois, attention à ne pas ouvrir une boîte de Pandore, une tokenisation n'importe comment.
La tokenisation, ça apporte beaucoup de choses, mais disons que c'est une nouvelle ère financière qui aura quand même besoin de régulation. Pour l'instant, la régulation financière traditionnelle est censée répondre en fait aux besoins du produit de BlackRock, mais le produit de BlackRock est relativement simple. Il faut voir dans le futur s'il y a des acteurs un peu plus innovants qui proposent des choses un peu plus exotiques, là, il faudra voir s'il faut réguler de façon un peu différente.
Mais le fait qu'un géant comme BlackRock se lance dans cette numérisation peut faire effet boule de neige.
Oui, les acteurs économiques plutôt critiques sont de moins en moins nombreux. En France, le Crédit Mutuel reste l'un des grands défenseurs d'une finance centralisée, mais les mérites de la tokenisation des actifs financiers sont déjà vantés par le Fonds Monétaire International, la Banque des Règlements Internationaux aussi. Les banques JP Morgan et Citibank commencent également à miser sur le secteur, tout comme SG Forge, la filiale blockchain de la Société Générale. Mais qu'un acteur comme BlackRock ouvre un fonds d'actifs numériques, c'est une étape majeure de validation de l'écosystème des crypto-monnaies. On peut donc s'attendre à voir d'autres acteurs institutionnels limités dans les prochaines semaines.
Adrien Toffolet, merci. On retrouve votre décryptage écho à la page du journal de l'écho sur le site de France Culture. C'est aujourd'hui que le groupe Casino passe entre les mains de ses repreneurs, épilogue d'un long feuilleton dirigé pendant 20 ans par le controversé Jean-Charles Naouri. Le groupe stéphanois de distribution est désormais la propriété d'un triumvirat composé du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, Marc Ladret de la Charrière et du fonds Atestor. Avant cela, Casino a cessé toutes ses activités en Amérique latine, cédé la quasi-totalité de ses magasins grand format en France, puis lancé une procédure de sauvegarde accélérée, avant donc aujourd'hui de passer entre les mains de ses nouveaux actionnaires. Les tarifs des hôpitaux vont augmenter de 4,3% en 2024 pour les établissements publics et privés non lucratifs et de 0,3% seulement pour ceux qui appartiennent au secteur privé lucratif. Annonce hier dans les échos du ministre délégué à la Santé, Frédéric Valletoux. Interrogé sur la différence entre ces deux augmentations, il souligne que la forte croissance du secteur des cliniques privées ces dernières années permet de limiter la hausse de leurs tarifs. Les hôpitaux réclamaient des hausses de 10%, mais le budget de la Sécurité sociale ne prévoit pas un tel financement. Et puis les collectivités locales ne veulent plus participer au renflouement du déficit français. Elles l'ont signifié hier après l'annonce du déficit public pour 2023 à 5,5% du PIB. Pourtant, Bercy considère qu'elles sont riches en raison d'une trésorerie élevée, ce que réfute l'Association des maires de France, notamment. Son premier vice-président, André Léniel, pointe que la baisse cumulée de la dotation globale de fonctionnement a représenté 70 milliards d'euros d'efforts depuis 2014 et que la dette actuelle est principalement due au dérapage de l'État et non des collectivités. Enfin, l'Italie ouvre le bal de la vague de privatisation annoncée par le gouvernement Meloni. Hier, le ministre italien de l'économie a annoncé avoir placé sur les marchés une nouvelle part du capital de la banque Monte dei Paschi di Siena, pardon, la plus vieille banque du monde, dont un quart du capital avait déjà été cédé en novembre. Le gouvernement italien a annoncé un grand plan de privatisation dans les secteurs de la poste, du chemin de fer, des assurances et des banques, censé rapporter 20 milliards d'euros d'ici 2026, ce que les analystes jugent un peu ambitieux.